France Culture.
Les larmes de joie en Israël. 4 soldats otages du Hamas depuis le 7 octobre ont été libérés. Ce matin, nous serons à Tel Aviv sur la place des otages au milieu de la foule en liesse dès le début de ce journal. Un bras de fer dans les prétoires italiens. Les magistrats du pays boycottent leur rentrée judiciaire, très opposés au projet de réforme de la justice voulu par Giorgia Meloni. Et puis avant les prétoires, il y a le bureau des plaintes. En France, ils sont coincés au début du siècle, plombés par un logiciel obsolète. Et puis enfin, l'ogre du basket américain, la NBA, part à la conquête de l'Europe. Et on en parle avec notre invité Yann Casseville, rédacteur en chef de Basket Le Mag. Elles sont enfin tombées dans les bras de leur famille. 4 soldates israéliennes, otages du Hamas, ont été libérées ce matin par le mouvement islamiste. Elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge, puis par l'armée israélienne, après 477 jours de captivité dans les tunnels de la bande de Gaza. Bonjour William Delesseux.
Bonjour.
Vous trouvez place des otages à Tel Aviv, où les familles et les soutiens réunis ont laissé exploser leur joie lorsque les premières images des visages de ces 4 soldates est apparue.
Effectivement, toujours quelques centaines d'habitants sous le soleil sur cette place. La tristesse des jours habituels ici s'estompe un peu aujourd'hui. Les images des 4 militaires, 4 sentinelles âgées d'à peine 20 ans, libérées, se succèdent sur l'écran géant. Taïsia a 18 ans.
It's really emotional.
C'est vraiment émouvant, je me sens en communion avec tout le monde ici. J'ai quasiment le même âge que les otages, c'est ce qui est encore plus émouvant car je peux les imaginer. Là-bas, ça a dû être terrifiant, horrible. Elles vont pouvoir rentrer à la maison.
Mais les explosions de joie, somme toute limitées, ont vite laissé place à des émotions mêlées. Les sentiments de Lydia, franco-israélienne, sont assez partagés.
Disons que ça donne quand même un petit rayon d'optimisme dans une période difficile.
Quand vous avez vu les images des 4 jeunes filles montées sur cette estrade installée par le Hamas, qu'est-ce que vous avez pensé ?
Honnêtement, beaucoup de dégoût. Pardon, je suis un peu émue. C'est déjà très dur ce qu'elles vivent. Je crois que ça doit être très effrayant comme moment et leur faire vivre ça en plus. Et cette mise en scène est franchement, je trouve, atroce. Après, je pense que tout le monde aussi était quand même soulagé de les voir. Elles sont debout, elles marchent, elles sont dans un état physique qui est quand même relativement correct, en tout cas il semblerait. C'est quand même réjouissant aussi.
Elles sont en bonne santé d'après les tout premiers constats médicaux effectués. Après les retrouvailles avec leur famille près de la frontière entre Israël et Gaza, les 4 jeunes filles doivent prendre la direction d'un hôpital à l'est de Tel Aviv pour être prises en charge.
Merci William Delesseux, envoyé spécial à Tel Aviv avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Cette liesse et cette joie sont bien sûr sincères, mais il y a une part de mise en scène dans ces libérations d'otages du côté du gouvernement israélien, toujours sous la pression des familles, mais aussi du côté du Hamas. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour François.
Avant de les libérer, ces otages, le mouvement islamiste n'a pas manqué l'occasion de les présenter sur un podium.
Ah non, c'était bien plus organisé d'ailleurs que lors de la dernière libération de 3 otages dimanche dernier, avec cette fois autour d'un podium, d'une estrade montée sur la place de la Palestine au centre de la ville de Gaza, une foule contenue par des miliciens armés. C'était donc une démonstration de force, mais derrière toute cette mise en scène, il y avait une communication très politique. Le Hamas a distribué des drapeaux palestiniens, ces hommes armés portaient des kéfiers, symbole de la résistance à Gaza et en Cisjordanie, et comme je vous le disais, la cérémonie a été organisé place de la Palestine. Le message est clair, le Hamas n'a pas disparu et compte bien continuer à se présenter comme le principal défenseur de la cause nationale palestinienne.
Et cette libération, elle a bien sûr un prix. Israël va libérer 200 prisonniers palestiniens dans le cadre de cet accord de trêve. Quels sont les profils de ces prisonniers ?
Oui, c'est une première. La semaine dernière, les 90 détenus ont été libérés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée. Cette fois, 16 d'entre eux rentreront à Gaza et 70 seront exilés, bannis pendant 3 ans et contraints donc de partir dans un premier temps en Égypte avant de rejoindre un pays hôte. On parle du Qatar ou de la Turquie.
Et Israël desserre également un peu plus son étau sur la bande de Gaza à partir d'aujourd'hui, Thibault.
Alors c'est théoriquement ce qui devrait se passer aujourd'hui ou demain, mais il y a un mais. L'État hébreu exige depuis ce matin, avant d'ouvrir les voies d'accès entre le sud et le nord de l'enclave, le retour en Israël d'une otage civile qui aurait dû être libérée en vertu de l'accord avant les militaires. Elle s'appelle Arbel Yehuda et elle serait détenue par le djihad islamique. Le Hamas a assuré sur la chaîne Qatari Al Jazeera qu'elle devrait être libérée samedi prochain. À voir si cette promesse suffit. suffi à faire plier le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Merci Thibault Lefebvre. Et il reste, à l'issue de cet échange du jour, 26 otages israéliens encore libérables pour la première phase de cet accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. À Gaza, le cessez-le-feu est relativement respecté, mais l'État hébreu poursuit son offensive dans des camps de réfugiés en Cisjordanie occupée. Israël s'en prend également à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'ambassadeur israélien exige que l'UNRWA quitte Jérusalem avant le 30 janvier. Israël accuse cette agence des Nations Unies d'être infiltrée par le Hamas. En Italie, beaucoup de magistrats n'assisteront pas aujourd'hui à l'audience de rentrée de l'année judiciaire. Ils protestent contre la réforme de la magistrature lancée par le gouvernement de Giorgia Meloni. Elle met en péril leur indépendance, selon le principal syndicat de la magistrature. Et cela fait des années, en fait, que la droite italienne mène une guerre contre les juges. Alors, dans la lignée de ces années Berlusconi, Giorgia Meloni et ses alliés cherchent à affirmer leur pouvoir, Bruno Duvic.
Il n'y a pas de juge d'instruction en Italie. Le procureur mène l'enquête et accuse, le juge tranche au tribunal. La réforme sépare les deux carrières, plus de passerelles entre les fonctions et deux conseils supérieurs de la magistrature différents. Sur le papier, cela se défend. Hermès Antonucci est l'auteur d'un livre sur l'histoire de la magistrature.
Il y aura une séparation des rôles plus nette et transparente et plus de garanties pour le citoyen d'avoir face à lui un juge qui ne soit pas conditionné par le ministère public.
Pour cette raison, le juge Di Pietro, celui de l'opération anticorruption main propre, défend cette réforme. La Constitution garantit par ailleurs l'indépendance des procureurs. Pourquoi alors l'Association des magistrats estime que le gouvernement cherche à les affaiblir? La réponse est dans le contexte politique. De Berlusconi à Meloni aujourd'hui, les juges sont accusés par la droite italienne de forcément pencher à gauche.
Bien sûr, c'est un signal envoyé par les politiques aux magistrats. Certains politiques donnent un ton agressif à cette réforme, comme une sorte de vendetta.
La réforme, au début d'un long parcours, pourrait être tranchée par référendum.
Correspondance à Rome de Bruno Duvic. Les policiers français regretteraient presque l'époque des bonnes vieilles machines à écrire, car au quotidien, ils se débattent avec un logiciel de rédaction des procédures complètement obsolète. Sa nouvelle version n'est pas attendue avant 2027. Alors en attendant, les fonctionnaires comme les citoyens en pâtissent, ce que n'ont pas manqué de faire savoir les syndicats au ministre de l'Intérieur, Anne Fauquemberg.
On ne compte plus les tracts syndicaux et même les posts de policiers sur les réseaux sociaux dans lesquels ils expriment leur frustration face à ce logiciel dinosaure de rédaction de procédures dit LRPPN. Né il y a plus de 20 ans, cet outil a été plusieurs fois remis à jour, mais la dernière version n'intègre pas, par exemple, les nouveaux droits accordés aux suspects lors des gardes à vue, explique Thierry Clerc. Il est le secrétaire général du syndicat UNSA Police.
Par exemple, pour une personne qui est placée en garde à vue, on doit l'aviser en fait qu'elle peut prévenir toute personne de son choix. Aujourd'hui, les mises à jour n'ont pas permis d'inscrire automatiquement cet avis qui est un avis systématique pour toute personne qui est placée en garde à vue. Il doit être mentionné manuellement par les enquêteurs.
Le logiciel, par son obsolescence, fragilise les rédactions de procédures dans les commissariats. Un logiciel qui manque aussi d'ergonomie et qui ne comprend pas de correcteur d'orthographe. Le tout étant parfois couplé à des problèmes de taille de réseau avec des lenteurs de connexion. Le futur outil, baptisé XPN22, est donc très attendu, et pas seulement pour soulager les policiers, explique Christophe Soulez. Il est le directeur de l'IHEMI, l'Institut des Hautes Études du ministère de l'Intérieur.
C'est quelque chose qui est très attendu, notamment aussi dans le cadre des relations police-justice, puisque l'objectif aussi à un moment donné, c'est d'arriver à une interconnexion des fichiers de la police et de la justice avec une dématérialisation des procédures, avec une transmission automatique des procédures, évitant les tonnes de papier que l'on peut avoir aujourd'hui.
Dans d'autres domaines comme l'identité numérique ou le dépôt de plainte en ligne, le ministère de l'Intérieur a montré des capacités à se moderniser. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dit tout faire pour que le nouveau logiciel de rédaction de procédures arrive avant 2027.
Et dans ce dossier, il y a un autre fiasco, Scribe. Ce projet de nouveau logiciel de rédaction est à l'arrêt depuis plusieurs années. Le raté est tel que la chambre du contentieux de la Cour des comptes s'est penchée sur l'affaire. C'est une procédure rarissime. 812 000 supporters devant leur écran. Non, ce n'est pas l'audience d'un match de Ligue 1 de football. C'est bien l'audience d'un match de basket organisé à Paris hier par la NBA entre les Spurs de San Antonio et les Pacers d'Indiana avec en vedette la star française Victor Wembanyama. C'est un nouveau signe de l'appétit de la surpuissante Ligue américaine de basket pour les joueurs et le marché européen. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le rédacteur en chef du mensuel Basket Le Mag. Bonjour Yann Casville.
Bonjour.
Alors, la NBA, elle s'intéresse à l'Europe pour plusieurs raisons. On va commencer par la plus évidente, la plus visible, ses joueurs. Alors, pourquoi est-ce que les Américains s'arrachent les talents du vieux continent comme Wembanyama? Pourquoi ils sont aussi bons?
Parce qu'aujourd'hui, la plupart, beaucoup des meilleurs joueurs de basket viennent pas uniquement des États-Unis et même de tous les continents. Il y a beaucoup des meilleurs joueurs qui sont européens. Il y a un des meilleurs joueurs au monde qui est africain. Donc la NBA elle a très bien compris que aujourd'hui, si elle veut appuyer ce constat qu'elle est la meilleure ligue de basket au monde et qui est indiscutable, ça vient aussi de sa matière première, et la matière première elle se trouve partout et pas seulement sur le sol américain.
Et pourquoi est-ce qu'en Europe, la matière première, comme vous dites, est aussi réputée aussi bonne?
C'est la formation, beaucoup, c'est les infrastructures. Il y a un vrai travail qui est fait pour développer les joueurs, mais tout en restant dans un cadre très collectif. Et souvent, les joueurs européens qui arrivent en NBA, ils ont une connaissance parfois du jeu, une intelligence, on va dire, du jeu, qui peut être supérieure à celle des basketteurs américains, qui eux, dans leur formation, se concentrent, pas uniquement, mais plus sur les qualités techniques individuelles, parfois au détriment des qualités collectives. Et à très haut niveau, ces joueurs européens, ils vont être recherchés parce qu'ils apportent quelque chose de différent.
Alors l'Europe, c'est également un marché très juteux pour la NBA, qui table même, je crois, sur 3 milliards de dollars de revenus par an. En tout cas, c'est les perspectives qui sont envisagées par la NBA. Qu'est-ce qui explique que l'Europe est un marché aussi attractif pour la NBA en termes économiques cette fois-ci?
Là, ça se joue sur le fait que c'est la NBA qui a réussi dans un premier temps à se construire non pas simplement comme un championnat de basket, mais comme un vrai produit d'appel américain. On peut comparer ça le jazz qui arrive en France, enfin en Europe au XXe siècle, ou le cinéma américain. Là, c'est la même chose, c'est le basket américain qui débarque en Europe. Il y a un côté un petit peu Disneyland. La NBA est extrêmement douée pour vendre son produit, et le public européen il est aussi très réceptif, parce que le public européen, et notamment en France, il aime beaucoup ce qui vient des États-Unis. Il est sensible à la NBA, à la culture, ce qu'on appelle la culture NBA. C'est au-delà du jeu, ça peut être les maillots, ça peut être les highlights, qui sont les images qu'on montre, que la NBA montre sur les réseaux sociaux. Ça peut être l'entertainment, le tout ce qui est les animations qui ont lieu pendant les matchs. C'est tout un produit que la NBA vend, et le public européen il est très réceptif. Et la NBA, c'est une ligue commerciale, bien sûr c'est un championnat de basket, mais c'est aussi une ligue commerciale, et elle cherche évidemment à se vendre, et en Europe elle a un marché qui est actuellement très fertile.
Oui, il y a cette notion de soft power en fait que vous évoquez, mais il y a évidemment sur cet aspect économique, je voudrais développer là-dessus. La NBA réfléchit même à la création d'une ligue européenne, mais alors en Europe, qui pourrait s'opposer à ça? Quel club, quelle politique ou quelles instances n'auraient pas intérêt à ce que la NBA investisse le marché européen, l'Euroleague, qui d'ailleurs je crois un peu en chute libre en termes d'audience?
C'est ça, l'Euroleague est très clairement en chute libre, les clubs perdent tous de l'argent, il n'y a pas de droit à télé, on va dire vraiment à l'échelle européenne. Très clairement, qui pourrait s'opposer à ce que la NBA vienne en Europe? Aujourd'hui, c'est une question où je pense qu'on peut répondre que c'est inéluctable finalement que la NBA vienne en Europe. Le fantasme de la NBA qui arrive en Europe, il existe depuis les années 80 grosso modo, mais c'était irréalisable, c'était impensable. Là aujourd'hui, la NBA c'est une telle puissance qui effectivement se chiffre en milliards de dollars, que plus personne ne peut s'opposer à ce qu'elle arrive en Europe. Et l'idée c'est plutôt de se dire comment s'associer à elle pour conserver ce qui fait les caractéristiques, l'identité du basket européen, tout en profitant de son savoir-faire qu'il faut vraiment pas négliger, parce qu'à ce niveau-là, la NBA est une référence mondiale, son savoir-faire en termes de marketing pour commercialiser un produit. Et donc l'idée, c'est plutôt de savoir, oui, comment profiter de la NBA plutôt que de se dire on va s'opposer à elle, parce qu'aujourd'hui, il s'agit plus de ça. Si c'était ce combat, il est déjà perdu finalement.
Très bien. Bah écoutez, merci Yann Casville, rédacteur en chef du mensuel Basket Le Mag, sur ses éclairages sur l'appétit de la NBA pour le marché européen. Météo France place la Mayenne en vigilance orange pour un risque de crue. Le département rejoint l'Ille-et-Vilaine et le Calvados, qui sont en vigilance orange crue depuis hier soir. Le temps est donc pluvieux partout en France, sauf sur le sud-est et la pointe bretonne.